Le service de l'information de CJSO 101.7 présente La Tribune avec Sylvain Rochon.
Alors, nous revenons au restaurant Tracy. La discussion, même pendant les pauses, va bon train ici. Je pense qu'on va avoir une émission fort intéressante. Restez là. La région n'en est pas à sa première frousse là, de perdre ses acquis en matière de santé, de services sociaux. Je rappelais mardi dernier le souvenir d'une manifestation devant les bureaux de Sylvain Simard dans les années 90 qui avait réuni, je pense, 2000 personnes. Puis j'exagère pas, là, c'était plein de monde. Je me souviens des docteurs Godin, Jacques et Daniel, porte-voix à la main. Là, puis je te dis que Simard, il s'est fait brasser. On a dû couvrir ça ensemble, même Hélène, vous pour La Voix et moi pour CJSO. Plus récemment, il y a eu cette fameuse marche pour le bronchoscope. Est-ce qu'on est des insécures chroniques ou est-ce qu'on a raison d'avoir peur? À l'époque de la manif devant les bureaux de Sylvain Simard, je veux faire du pouce sur votre histoire de conseil d'administration, Jacques. Je pense que tout le monde a le goût de parler de ça. On avait toujours une direction locale, sans doute même trois directions, parce qu'on a eu à un moment donné une direction pour le CLSC, une direction pour le CLSC et une direction pour l'hôpital. Est-ce que nous sommes définitivement plus à risque depuis que les décideurs en véritable position d'autorité ne sont plus dans la région, ils sont à Longueuil et aussi à Québec? Est-ce que ça fait partie du problème? C'est un peu ce que vous étiez en train de nous expliquer, je pense, Jacques Bordelot. Je rappelle que vous avez été le dernier vice-président de feu le Centre de santé et de services sociaux de Pierre de Sorel.
En fait, je crois que une trop grande disparité des ressources ou des lieux de prestation, ce n'est pas préférable. Ce qui était la formule qui prévalait avant la réforme Barrette, à mon avis, elle présentait un bel équilibre. Elle permettait à des administrateurs locaux, bénévoles, et à des gestionnaires de se réunir pour déterminer des services, qu'ils soient dispensés par le CLSC, par des centres d'hébergement ou par l'hôpital, mais qu'ils soient intégrés et qu'ils soient assortis à une étude des besoins réels de la population, étude qui se faisait régulièrement. Je me souviens très bien notamment des études socio-économiques, sociologiques que René Lachapelle menait avec ses collègues, avec des amis, avec des collègues, et ça nous donnait un portrait très vivant de la population, des besoins. On sait, par exemple, qu'en pneumologie, nous avons des besoins tout à fait particuliers qui ne sont pas les mêmes ailleurs.
Ils ont fini par être reconnus, mais ça a été difficile.
Oui, ils le sont, et ils le seront encore. La nouvelle organisation ne fera pas fi de ça, mais ça va s'inscrire dans un ensemble de priorités beaucoup plus élargi et qui va devoir tenir compte d'autres contextes aussi qui sont pressants, qui sont urgents, qui sont nécessaires, alors que la décentralisation dans laquelle nous vivions à l'époque permettait que nous ayons des planifications stratégiques locales en fonction des problématiques locales. Et dans ce sens-là, si par exemple je lisais plutôt, si par exemple Mme Potvin et les administrateurs du CI3S envisageaient une formule quelconque, efficace, qui permettrait que des besoins et des allocations de ressources soient plus centrés sur des milieux régionaux, en fonction
sous-régionaux,
ouais, si on veut, en fonction de l'état des choses sous-régionales, mm-hmm, on serait déjà dans la bonne direction. On poserait un pas dans la bonne direction.
Mais est-ce qu'on rêve? Est-ce que cela peut arriver? Et est-ce que Mme Potvin, comme présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, peut mener une telle réforme des structures puis dire, ben tiens, elles reviennent, les directions locales, avec plein pouvoir? Là, on est dans des décisions d'ordre, si je puis me permettre, je crois que nous sommes dans des décisions d'ordre politique, pas administratif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Albert, puis il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer.
Effectivement, c'est d'ordre d'un côté politique et administratif. Ce que Jacques mentionnait tantôt, avec raison, la structure administrative qui y avait là, à l'époque, elle avait la capacité de prendre une décision parce qu'elle avait un budget. Ce budget, elle pouvait l'allouer aux besoins selon les études qui viennent. Actuellement, le budget n'est pas sous le contrôle de notre établissement.
C'est vrai.
Le budget est sous le contrôle d'une administration régionale selon la formule de la nouvelle répartition ministérielle. Ça nous enlève le pouvoir de réclamer nos besoins. Je me souviens, dans le débat sur le scanner à l'époque, on avait une chose semblable. Mm-hmm. On avait capacité d'avoir une administration budgétaire locale, mais on n'avait pas la capacité d'administrer un budget comme celui d'un scanner. Le règlement qu'on a fait, mais à l'époque, on avait une structure différente qu'actuelle, c'est que le conseil du 3S, il y avait des représentants de notre région ici. Mm-hmm. Il y avait le docteur, comment il s'appelle, Jean-Pierre Picard, il y avait Louise, il y avait deux, il y avait, je pense René aussi.
Louise
il y avait,
et Louise Soucis, c'est ça?
Louise Soucis.
Oui.
Et on a réussi à faire un travail administratif d'un côté et un travail politique d'un autre côté pour donner un budget supplémentaire pour une sous-région qui s'appelait à l'époque sous-région de Sorel-Tracy.
D'accord.
Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à obtenir cette capacité de flexibilité budgétaire, on va vivre toujours les mêmes problèmes.
Suzanne Lalande, vous avez signifié vouloir intervenir.
Oui, merci. En fait, j'aimerais revenir un petit peu en arrière et ramener... on dit que le nœud gordien, c'est la réforme Barrette. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est plus profond que ça. Il y a des enjeux sur le plan de la santé majeurs au Québec qui sont différents de ce qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans et qui vont aller en augmentant, d'une part à cause du vieillissement de la population, tout le monde le sait, mais aussi avec l'avancement des technologies. Puis on ne peut pas le nier, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on le fasse, mais des gens vivent à cause de la technologie qu'ils n'auraient pas vécu il y a 20, 30, 40 ans. Des enfants, des bébés naissants sont maintenus en vie, des personnes âgées sont maintenues en vie. Puis tant mieux pour elles et tant mieux collectivement, mais ça reste un enjeu majeur avec des coûts grandissants. Alors, ça, c'est l'enjeu de base, il me semble. Et les gouvernements tentent, à mon avis, maladroitement ou politiquement, peut-être rentablement, de résoudre. Et la réforme Barrette est une de ces mauvaises solutions.
Mais elle s'inscrivait contexte que vous dites.
Oui, mais dans un contexte de vouloir... Les choses vont devoir changer. Je pense qu'il faut admettre, on ne sera plus comme on était avant, ça c'est clair. Il faut se regarder la région comme faisant partie d'une grande région, faisant partie de l'ensemble du Québec. Il y a des choses qui vont nous appartenir et des choses qui ne nous appartiendront plus. Mais effectivement, je pense que la réforme Barrette était très maladroite parce que effectivement, ça enlève des pouvoirs de décision pour essayer d'identifier les problèmes de santé. Oui. Mais c'est pas rien que ça. Faut pas s'en limiter à ça. Les problèmes, les enjeux de santé et de problèmes de soins de santé dépassent largement cet enjeu-là.
Louise Beauchesne.
Avec la jase, il me semble qu'il vient pas mal de choses, là. Je pense que un des problèmes majeurs de la réforme Barrette, c'était de croire, et c'est encore ça au niveau de la CAQ, c'était de croire que des gens formés style gestionnaire sont capables de gérer l'ensemble des soins du Québec. De là, le conseil d'administration, il y a très peu de gens qui ont le droit maintenant de voter. Moi, je votais en Noirmoutier, j'étais représentante de tous les employés. Oui, j'avais le droit de vote. CLSC, j'avais le droit de vote. Il y avait un droit de parole et un droit décisionnel, ce que Jacques parlait tantôt. On a fait déjà là, passer de Saint-Hyacinthe en santé communautaire et dire, Saint-Hyacinthe, Maison-Mère, je regrette, en 85, le style de la population ici avait des problèmes. Il fallait des réponses locales à ces problèmes-là. Et on considérait que Saint-Hyacinthe était comme, il prenait toute la place, là, puis qu'il comprenait pas les besoins locaux. Effectivement, le CLSC a comme mission, encore aujourd'hui, par exemple, de regarder les problèmes locaux puis d'en faire mention. Mais tu n'as pas le droit de vote, puis comme usager, M. Imbeault, je ne sais pas trop, là.
M. Imbeault.
Imbeault disait, excusez, je ne sais pas trop, là, mais je ne me rappelais pas de son nom, disait que juste d'en jaser, mais pas le droit de vote. Ça n'a pas de bon sens. J'en viens à un, puis peut-être qu'on pourra en repasser. Je me disais, comment ça se fait qu'on sait que la population ici est vieillissante, puis qu'après ça, y compris pour M. Aymon, une des priorités est la pédiatrie. C'est quoi ça, là? Comment ça se fait que ça ne correspond pas les priorités avec ce qu'on sent dans la région? Et là, après ça, j'ai compris, il y a un bris au niveau de la pédiatrie, il y a un problème. Là, on va fonctionner de problème en problème. J'en rajoute un problème parce qu'on m'en a parlé beaucoup. On m'en a parlé beaucoup cette semaine. Oui, on a une population vieillissante et à partir de juin, qui est la semaine prochaine, jusqu'en septembre, je pense, 3 médecins omnipraticiens quittent la région. Juste dans ma famille, on est 6 sur 8 en haut de 65 ans. Ça veut dire diabète, ça veut dire haute tension, ça veut dire tout ça. Et on perd 6 sur 8 les médecins omnipraticiens. Là, j'écoutais, là, Madame Potvin, je dis, oups, elle n'a pas parlé de médecin omnipraticien.
Mais
tu t'imagines l'insécurité?
Disons que la conversation n'a pas été beaucoup orientée sur cette question-là. Le docteur Gonin étant lui-même médecin spécialiste, je comprends la tentation naturelle de sa part de revenir beaucoup sur cette classe-là de médecins.
Mais
hein.
Quand on dit que le sondage que vous avez fait, 60%
oui.
Okay, disait que les soins de santé insatisfaits.
Des services et des soins de santé.
À partir de juin, là, ça va être quoi la porte d'entrée? Parce que moi, présentement, là, je fais le tour. Je vais beaucoup à l'hôpital à cause de ma situation. Mais la porte d'entrée, est-ce que ça va être comme moi, là, deux semaines, l'urgence, parce que tu as une infection, tu passes 8 heures là. Qui va donner les prescriptions des gens diabétiques? T'sais, ça a l'air hypertension, qui va faire ça? C'est supposé être le CLSC. La question du docteur Godin, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? C'est demain matin, ça, là. En tout cas, les bris de service, la jase que j'ai eue, y compris dans les hôpitaux, il y en a ici. Puis je reviendrai sur un que je trouve ça incroyable.
Nous avons une urgence, nous aussi, à CGSO. C'est celle d'aller à la pause et on est de retour immédiatement après.